Nous allons lire trois textes pour support pour la prédication de Paul Robert. C'est dans Luc 11, versets 27 et 28. Ils seront projetés plus tard sur le bimère pour que ça puisse rentrer. Luc 11, 27 et 28. Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme s'écria : Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. Mais Jésus répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Luc 10, versets 1 à 3, pour introduire les quelques versets suivants. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux, pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Un peu plus tard, au verset 17, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient : Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. « Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Mais écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. »
Bonjour à chacun, quel plaisir d'être au milieu de vous, d'accueillir ces amis qui nous viennent pas très loin de la vigne et d'ailleurs, ces gens de 1926, Étienne, ouais, Marguerite, c'est des grands souvenirs, mon beau-père, André, bienvenue à tous, à chacun. C'est vrai, le 25 mai, comme il a été dit, 14, c'est Sylvain qui nous a apporté un message. D'ailleurs, après le message, je suis venu lui voir, je préparais déjà un peu celui-là. Je lui ai dit, écoute, je crois qu'on est conduit. T'es sur la béatitude, et puis il a parlé un peu des contrastes de Christ, hein, ce qu'il apportait, voilà. Et c'est vrai que c'était un peu dans ce que je voulais partager aussi ce matin. Contraste, le dictionnaire nous dit que le contraste, c'est l'opposition entre deux choses qui sont mises en valeur l'une par l'autre, par leur juste imposition. Contraster, c'est s'opposer de manière frappante. Une photographie contrastée, des jugements contrastés, des paroles contrastées. Des paroles qui peuvent être une réponse différente de celle attendue, une réponse qui crée la surprise. Je peux mettre la photo 1. Voilà. Tirer de la Bible des contrastes de M. Henri Lindegarde, feu M. Lindegarde. Ce dessin s'appelle « Allez hein ». Quand il lui dit « Allez », la moisson est grande. Hein. Et on voit là le noir et le blanc, en contraste. Le dessin ressort grâce à ce jeu entre le noir et le blanc. Enlever le noir, il n'y a plus rien. Enlever le blanc, il n'y a plus rien non plus. Le blanc a besoin du noir et le noir du blanc. Voilà. Photo 2. L'église Mérin, c'est le top. Quelle joie d'y aller. Alors, on peut faire ressortir quelque chose dans un texte en écrivant en gras, hein, une date qu'on veut que les gens retiennent. Bah ouais, Sylvain. Ou la souligner. Changer de couleur. Écrire plus grand. Ou une autre police, un autre caractère. Ou mélanger le tout. C'est le top. Là, ça ressort quand même, c'est le top. Il y a un contraste, quelque chose qui ressort, qui n'est pas la même chose que d'habitude. Dans un discours, une conversation, en donnant un cours, on peut aussi changer de ton. Parler plus fort. Ou parler tout doucement. Enfin, peut-être pas dans le micro. Changer d'attitude. On peut aussi dire un contraire surprendre son interlocuteur. Il y a quelqu'un qui disait, faut dire le faux pour savoir le vrai. Susciter l'étonnement en disant quelque chose qui n'est pas dans la ligne. C'est pas quelqu'un de notre Église. Le couple, Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, homme et femme. C'est pour moi le plus beau des contrastes. Homme et femme, on se ressemble. On a une tête, un corps, deux pieds, deux bras. Et pourtant, quelle différence entre nous, tant physique que sentimentale, que d'attitude face aux événements, manière de prendre les choses, d'oublier, de penser. Oui, des grandes différences. Et dans l'unisexe que le monde nous propose, avec cette égalité en tout, l'homme et la femme sont un peu comme le noir et le blanc du dessin. Ils ne sont rien l'un sans l'autre. On se met en valeur l'un par l'autre. Oui, femme, grâce à vous, nous les hommes, nous sommes. Et vice-versa. C'est cette beauté de la création, cette création humaine, que le monde veut de plus en plus ignorer, changer, fouler aux pieds, bannir, par toutes les théories qu'on nous sert aujourd'hui. Par exemple, la théorie du genre, du gender, comme on dit. D'autres lobbies, des théories souvent perverses et mensongères. Oui, je l'affirme devant cette assemblée, le couple, cette mise en valeur l'un par l'autre, par nos différences, ce contraste du couple est porteur de vie. C'est le plus beau des contrastes. En tout cas, j'en ai fait l'expérience. Contraste, contrasté, provoquer la surprise, l'étonnement. Là, Jésus-Christ, eh ben, c'est le champion. Sa vie est un contraste permanent. Il est né dans une étable. C'est quand même pas habituel. Et puis à l'époque, il est né de parents non mariés. Ça, c'était pas terrible non plus. À 30 ans, il quitte son père et le boulot, lui le fils aîné. Et il en appelle d'autres à faire de même. Quand il est entouré d'une foule qui a le succès, que tout là, il s'échappe pour être seul, pour prier. Il refuse le succès. Il meurt sur une croix. Ça aussi, c'est pas habituel. Tout est contrasté avec Jésus. Jésus, parmi nous, a employé, et ça a été dit tout à l'heure par Roger, des petites phrases, pleines de sel, de saveur, contrastées. Un exemple, dans Luc 6, nous lisons que Jésus, en parlant du jugement, il dit « hypocrite », en s'adressant à tout le monde, hein, « hypocrite ». Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre? Je sais ce que c'est qu'une poutre, hein. Avec Michel, on en a posé quelques-unes là-bas. Qui est dans ton œil à toi? Parole forte, parole qui ébranle, qui surprend. Pour nous qui jugeons des fois si facilement, en tout cas moi. Parole à méditer, une parole juste, qui remet les choses à leur place et nous remet à notre place. Ce genre de petites phrases de répartie, j'en ai relevé entre autres plus de 15, disons, particulières dans l'évangile de Luc. On va en visionner quelques-unes. Rapidement. Alors ça, c'est le message de Sylvain. Heureux dans les béatitudes, hein. Vous les pauvres, vous qui avez faim, vous qui pleurez, vous qui êtes persécutés. Ça, c'est des petites phrases. Hein. Alors ça, c'est dans Marc. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il faudrait une fois que je prêche là-dessus. Ça me... Le sermon sur la montagne. Mais aimez vos ennemis. Tiens, on a parlé du débarquement. Hein. Luc 8. Ta mère et tes frères veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 9. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Luc 9 aussi, là encore une phrase, hein. « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Là, il répond à quelqu'un qui dit « Je veux te suivre. Hein. » Et puis, l'histoire du bon samaritain, et le gars qui veut se justifier, qui dit « Qui est mon prochain ?» Et Jésus, il renverse la vapeur. Et lui répond, après avoir raconté son histoire du bon samaritain, « Lequel des trois, donc les gens qui sont passés devant le blessé, te semble avoir été le prochain de celui qui est blessé ?» Luc 14. « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, et je viens de parler du couple, hein, ses enfants, ses frères et sœurs, et là le plus dur, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Sacrée petite phrase. Hein. Et puis sur la croix. Non mais... Vous lisez là ? Il est en train de mourir sur la croix pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit, en fonction en tout cas des Romains, de ceux qui l'ont cloué sur cette croix, qui eux sont vraiment au courant de rien, qui obéissent. Père, même là, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les petites phrases de Jésus. Ces petites phrases sont des réponses, des réparties, en réaction avec une question, avec une habitude, une tradition, un enseignement, une réalité, un événement. Souvent, elles commencent par deux petits mots tels que « j'ai entendu toutefois ». Moi, je lisais « cependant » dans ma version à moi. Alors, les petits mots tels que « cependant », « mais », « plutôt », « car », « en effet », « si », « donc », « ainsi ». Moi, je vous dis, voilà des petits mots qui souvent accompagnent ces petites phrases. Des petites phrases qu'il serait plus juste de nommer des grands thèmes. Ces bons conseils, ces justes mots d'ordre, et encore plus loin, ces grandes pensées, ces profondes réflexions. Oui, des réponses décalées, contrastées avec son époque, éloignées de la pensée, je dirais, un peu unique, de son temps et d'aujourd'hui. Des pensées allant à contre-courant, pas toujours faciles à mettre en pratique. Encore, faut-il les comprendre et les appréhender, les prendre pour soi. Ces réflexions contrastées, pleines de relief, qui me bousculent, nous renversent, nous surprennent maintenant, ce dimanche. Mais des petites phrases allant à l'essentiel, touchant à la vérité. Ne dit-il pas souvent « en vérité, je vous le dis » Ou dans le sermon sur la montagne, 6 fois il répète « on vous a dit que, mais moi je vous dis ». Dans notre société où le mensonge est roi, dans le christianisme aujourd'hui, je lisais la chronique d'Huguenot, et qui disait, il parlait de ce monde, il disait que sur tous les plans, tout n'est que menterie, il disait. Le mensonger roi, Jésus donne des réponses ou fait des remarques sur certaines, vraies, enracinées, ancrées dans le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde, nous dit Jésus. Alors que faire avec ça ? Eh bien, avec lui, comptons sur son aide, ces petites phrases sont comme des petites piques, nous remettant sur la bonne voie et nous invitant à ne pas nous asseoir dans nos certitudes, mais d'aller, comme le dessin qu'on a vu, aller, debout, en avant. Ce ne sont pas des longs discours, comme je vais vous faire ce matin, que l'on oublie, mais des petites phrases qui font tilt en nous, qui nous accompagnent dans la vie. Alors ce matin, je vous en propose deux. Deux petites phrases, et c'est vrai, celle qu'on va passer maintenant, je lisais le texte, tout à coup, je dis, et c'est bien avant ce dimanche, hein. Je dis, mais, je sais pas, ça m'a tout à coup touché, ce texte. Et ils m'ont mis en réflexion, ces deux textes. Alors, ça, c'est la première, hein. Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Une femme qui s'écrie. Mais il répond, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent ou la mettent en pratique. La deuxième, donc les disciples reviennent de mission, ils sont tout heureux, cependant, ou toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On peut tous se réjouir de la classe 1926 à nous. Tu peux arrêter. Merci. Deux petites phrases, vous avez peut-être remarqué, qui sont tournées vers le bonheur. Heureux, plutôt, ceux qui entendent la parole de Dieu. Et dans l'autre, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le lien de ces deux phrases. Enfin, c'est un des liens, il y en a d'autres. Le bonheur, la joie, la réjouissance. Car Jésus désire que nous connaissions la joie, la vraie, celle qui vient de là-haut, pas celle qui est sous le sapin à Noël. Cette joie porteuse de justice, qui nous transforme, porteuse de paix, de sérénité, et de vie. La réponse de Jésus à la femme qui s'écrie « Béni soit la femme, heureuse la femme qui t'a porté et qui t'a allaité, etc. » semble-t-il complètement, mais complètement décalée. Elle est contrastée. Elle est à côté de la plaque. À côté de l'affirmation de la femme « Heureux le ventre et les seins ». Autrement dit, on pourrait dire « Heureuse ta mère ». Qu'aurions-nous répondu, nous ? Moi, j'aurais dit « Merci beaucoup, je vais le lui transmettre. » Ou bien « Merci, c'est vrai, il y a de quoi être fier de son fils. Hein. J'ai du succès, la foule est là qui me suit, je fais des miracles, je donne un enseignement, on m'appelle maître. » Non mais. Maman, elle est fière de son fiston, hein. Ou bien, on aurait pu aussi avoir une fausse modestie. Oui, merci, mais je vous en prie, là, je suis au naturel, n'exagérez pas, voilà, etc. La réponse de Jésus m'interpelle, surtout qu'il l'a dit deux fois. Vous avez peut-être lu dans les autres petites phrases, quand sa mère, on lui parle de sa mère, heureuse le ventre, etc., il dit, heureux ceux qui entendent la parole. Et dans Luc 8, on l'a lu dans les petits dessins, ta mère, tes frères, tes sœurs veulent te voir, ils sont dehors de la maison. Mais il répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est la même réponse. On lui parle famille, il répond parole de Dieu. Il répond obéissance, mettre en pratique. Pourtant, la parole de Dieu, elle n'est pas anti-famille, au contraire. Toute famille tire son nom de l'Éternel, de Dieu. Dans les 10 commandements, tu respecteras ton père et ta mère, etc., etc. Mais que veut-il dire? Et c'est vrai que je réfléchissais à tout ça, puis, vous savez, ça ne vient pas tout de suite. Et tout à coup, un matin, entre 6 et 8, vous savez, dans le demi-sommeil, c'est là qu'en général, tout à coup, il y a une réponse qui te vient. Heureux le ventre, heureux la mère. Oui, la mère donne la vie. Elle porte la vie. Elle met au monde la vie. Elle nourrit un petit être plein de vie avec l'avenir, tout l'avenir devant lui. Mais, hélas, nous le savons tous. Il y a une petite phrase qui dit aussi « naître ». C'est déjà vieillir, c'est déjà mourir. D'enfant, ce petit être va devenir adulte, il vieillira. Je regarde les photos quand il y a 30 ans, pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Et il finira dans la tombe. Il mourra. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, un petit bout de plus à sa vie? L'herbe sèche et la fleur tombe. Et on est comparé à cela, à une fleur qui apparaît un instant et disparaît, ou à un nuage, une nuée. C'est là notre lot, à tous. C'est là la fragilité, notre fragilité en tant qu'humain. Et Jésus, il sait tout cela beaucoup mieux que nous, parce qu'il s'est vraiment incarné. Il est notre Créateur, c'est par lui que nous sommes. Sur la croix, il est sur la croix, et là aussi encore une petite phrase contrastée, et les femmes qui sont là au pied de la croix, elles pleurent sur lui. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Oui, Jésus, il connaît cette fragilité. Il sait que la vie humaine ne tient qu'à un fil. Qui de vous peut savoir s'il sera encore là ce soir? Personne. Que le bonheur d'être mère peut devenir rapidement malheur. Quand Jésus est présenté par Marie, sa mère, au temple, quand il est tout petit, un enfant, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Siméon qui le reçoit, qui remercie Dieu parce qu'il voit le salut, etc. Et tout à coup, il dit à Marie, une épée te transpercera l'âme à cause de cet enfant. Quel souci, les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Et ces soucis peuvent nous envahir, peuvent nous créer des inquiétudes. Tout cela, certes, mais aussi beaucoup de joie. Hein? On ouvre le champagne quand il y a un petit qui naît. Quelle joie de les voir vivre, de les voir grandir, de les voir devenir indépendants. Mon petit-fils qui commence à marcher, là, c'est magnifique de le voir. Alors, si être mère, pour le Christ, c'est peut-être pas là le vrai bonheur, il nous propose une autre voie. Heureuse celle, dit la femme, qui t'a porté, qui t'a allaité. Et lui répond, heureux plutôt, ceux. Il passe du singulier au pluriel, du bonheur personnel au bonheur de tous, d'une vie centrée sur moi à la solidarité. À l'image de la mère qui donne la vie et qui nourrit, cette parole de Dieu que l'on entend engendrera en nous la vie avec un grand V. Être à l'écoute de cette parole, parole écrite, la Bible, ou discerner ensemble, ici, en communauté, cette parole qui brille dans les ténèbres, dans nos ténèbres, dans nos luttes, nos péchés, nos travers, nos fausses sécurités, si cette parole, nous l'accueillons, on peut l'accueillir en la personne de Jésus-Christ, Jean 1. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 14, le Christ, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Garder la parole, l'observer, la mettre en pratique, c'est devenir à notre tour, marié ou non, père et mère. Car fort de cette parole reçue qui engendre la vie en nous, qui nous nourrit, dans Jean 7, il nous est dit que des fleuves d'eau vive peuvent couler dans notre sein. Et alors à notre tour, guidés par le Saint-Esprit, croyant en Jésus, en sa parole, si nous sommes disciples du Christ, nourris, éclairés par lui, nous serons alors, je vous le garantis, père et mère spirituels, porteurs de vie, engendrant la vie, nourrissant notre prochain, ceux qui sont autour de nous, nos amis, leur donnant cette parole. Être porteur de vie qui ne va pas à la mort, comme l'enfant qu'on met au monde, mais qui va à la vie éternelle. On touche là à la vérité, à l'essentiel, à l'absolu, au vrai bonheur. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Et ça me touche encore. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dit le Christ à ses disciples quand ils reviennent de mission. Ailleurs, ce nom inscrit dans les cieux, il est parlé du livre de vie, ouvert par l'agneau. Apocalypse 5, on parle au Christ en gloire. Tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, je rajoute des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Le livre de vie, comme le rappelait l'autre dimanche Roger Sewell, Obed. Qui c'est Obed? C'est le fils de Ruth et de Boaz, hein? Dans la généalogie de David, on le voit. Il disait que Obed et d'autres sont inscrits dans ce livre de vie, ainsi que tous ceux qui sont nommés dans ces généalogies de la Bible. Avoir cette certitude que nos noms sont inscrits dans le livre de vie dans les cieux, là aussi, on touche à l'essentiel. On touche au vrai bonheur. Mais pourquoi? Pourquoi cette réponse du Christ, ou plutôt cette remarque, à ses disciples qui reviennent pleins de joie? Ah, ils sont heureux. Heureux d'avoir accompli une belle mission. Et quelle mission? Pas n'importe laquelle. Seigneur, même les démons nous sont soumis, attention là c'est important, par ton nom, ou en ton nom. Pas mal, hein? Et il leur répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est vaincu, il tombe. Il le voyait le Christ, c'est lui qui le voit, et je le crois quand il dit ça. Alors vous voyez que la mission est plutôt réussie. Au verset 21, il nous est dit que, au même moment, Jésus fut transporté dans l'allégresse. J'ai la joie. C'est le bonheur. Mission accomplie. Même bien accomplie. Et cette mission est approuvée par le Seigneur. Il les a envoyés, et ils reviennent, et ils l'approuvent. Mais pourquoi cette remarque décalée, contrastée? Elle cache un peu l'euphorie, hein, cassée. Casser un peu l'euphorie du moment, de ce retour joyeux. Ou de nous, contentons-nous de notre travail. On a fait une belle maison avec Michel. Là-bas derrière l'église. Contentons-nous. Mais continuons peut-être notre lecture. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Et il nous est dit aussi que Jésus donne, et quand il donne, il ne reprend pas. Avoir cette autorité, cette puissance sur l'ennemi, n'est-ce pas un désir, en fait, quelque part en chacun de nous? Car souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand il faut témoigner un peu autour de moi, dire qui je suis, distribuer le journal de la Coupe du Monde, hein, c'est pas évident. Hein. Surtout quand on connaît les gens, les voisins. On se sent un peu faible, un peu peureux. Quoi, on disait dans notre témoignage chrétien, de toutes sortes. Alors cette autorité sur les démons, tout ça, elle est la bienvenue. Donne, Seigneur, donne, moi je suis preneur. Que je me réjouisse avec les disciples. Continuons notre lecture. Rien ne pourra vous faire du mal. Ah, Jésus, il l'affirme, je vous ai donné, rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ou toutefois, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais qu'est-ce que ça a à faire là? Cependant, il aurait pu dire « mais » ou « plutôt ». Non, il choisit « cependant » ou « toutefois ». Ça me semble plus tendre. Ce mot laisse la porte ouverte. Laisse les disciples à leur joie momentanée. Mais ce mot avertit. Il dit qu'il y a quelque chose de plus précieux. Jésus, par ce cependant, ne dénigre pas la joie de ses disciples. Comme il ne dénigre pas notre joie dans le service, ou dans l'accomplissement du ministère ou de notre témoignage chrétien, accompli pour lui, avec lui, et parfois, heureusement, avec succès. Mais ce mot avertit du danger de cette joie momentané. Si ce type de joie, le succès dans nos entreprises, notamment spirituelles, est notre seule source de paix, de contentement, comme elle est momentanée, on va aller la chercher ou la rechercher avec force, avec fougue, avec hargne, afin de rééprouver ce sentiment de bonheur et surtout de le prolonger. Alors, on peut même, en déviant un peu, porter ce type de joie au pinacle, la rechercher. Et en recherchant ce type de joie, il y a le risque de dominer les autres. En recherchant cette puissance, rechercher quelque part un peu le pouvoir, et de monter tout cela un peu en dogme. Et là, l'Évangile devient religion. L'Évangile devient religion. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois, ou tu auras. Si tu crois que Dieu est tout-puissant, tu verras. Si tu es chrétien, tu ne seras pas malade. Oh, ça c'est un peu... Là, je force un peu le trait. Mais ce sentiment peut nous habiter et nous fermer la porte de notre cœur à Jésus, à Dieu, aux autres, à mon prochain. Paul, constatant ce dualisme en lui, hein, le péché habite en moi, il dit. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Verset 24 du Romains 7, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui va développer au chapitre 8 toute la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Quand Jésus nous dit « Cependant, réjouissez-vous », là aussi, comme déjà dit, il nous connaît avec nos fragilités, nos peurs, notre orgueil, nos désirs. Alors, il ouvre la porte sur le vrai chemin, sur le vrai bonheur, sur l'essentiel, sur la vérité, sur l'éternité avec lui. Et c'est là que les deux textes se rejoignent aussi, parce qu'ils parlent de choses d'en haut. Cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Deux petites phrases, deux conseils avisés de notre Maître, qui désire par-dessus tout notre bonheur, car il nous aime. Il nous veut avec lui, dans son royaume, pour toujours. Dans le texte des Béatitudes, celui qu'on a lu, « Heureux les doux, les humbles, les persécutés », le mot « heureux » peut se traduire par « en marche », qui est une action. Ou dans le texte de la femme qui dit « heureuse celle qui t'a allaitée », on pourrait le traduire par « courage », oser, oser être, oser dire, oser une attitude différente. Dans notre société, et ses valeurs en baisse, ses interrogations, ses a priori, voire ses affirmations, à l'exemple du Christ, osons le contraste. Mettons-nous en marche avec courage afin d'être sel et lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Oh, cela peut être dur et difficile. Mais dans Jean 16, on lit, Jésus dit à ses disciples, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Oui, notre chef, notre Seigneur, n'est pas un maître comme les autres. Il est le tout autre. Il veut nous surprendre, nous bousculer dans nos certitudes, nos idées, nos idéaux, nos absolus. Soyons donc à l'écoute. Mettons en pratique pour notre bonheur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen.